La piste poussiéreuse fut remplacée par une voie de bonne pavasse à l'approche de la cité et le premier chariot atteignit bien vite le panneau d'accueil du bourgmestre. C'était une simple planche de sapin fixée au bout de deux piquets penchés, mais les lettres étaient écrites à la peinture dorée et d'une écriture tellement fine qu'elles semblaient briller et danser dans la pénombre. Le tracé était charmant à contempler et le message encore davantage. Toi qui entres ici, réalise toutes tes espérances. Voilà qui était loin des habituelles mises en garde menaçantes et listes d'actes interdits par les autorités locales. Un talus se dressait le long de la voie depuis le panneau aux lettres d'or. Non pas fait de pierre ou de terre comme il s'en trouvait parfois au pied des routes sujettes à l'inondation, mais fait des choses les plus étranges et les plus diverses qui fussent. Il y avait là des coffrets d'ivoire, des étoffes, des assiettes de bois, des tonnelets, des godillots, des chaises de noyer, des gibecières en cuir remplies de pain rance. Il y avait même une chaîne en or et un candélabre du culte incrusté d'opale. Meubles, linge, objets de la vie courante ou bijoux précieux, il y en avait tant qu'ils formaient un remblai d'une bonne toise de haut qui se prolongeait à perte de vue. Jusqu'aux portes de la cité peut-être, jusqu'au premier tournant de la voie à tout le moins. Se retournant vers le chariot du capitaine, Jehan vit la longue procession de la caravane. Des buffles et des charrettes, des haquets grinçants, des visages pleins d'animation, des chants, des rires. Et tout au long de la voie, jaillissant sous les toiles ou par-dessus les ridelles, des bras se tendaient vers le bas-côté de la route, des mains crispées sur un objet qu'elles jetaient sur le remblai, une poupette, un portrait, un mantel de fourrure. Pas un regard sur les objets perdus. À ce qu'il paraissait, leurs propriétaires ne prenaient même pas conscience de leurs gestes. Jehan aperçut le capitaine qui, d'un mouvement machinal, se débarrassait de son ceinturon comme s'il était l'heure de s'allonger sur sa couche et le lançait au loin d'une vigoureuse poussée du bras. Le fourreau de sa lame tournoya deux fois dans le vide et retomba en heurtant un casque rouillé avec un bruit de casserole. Et pas un seul de ces hommes ne semblait voir, seulement voir, ces trésors à leurs pieds. La pucelle de Diable Vert, livre 1, La perle et l'enfant, Paul Béorn. Bonjour, bonjour. Ici, c'est Flo toute seule qui va vous parler aujourd'hui encore de fantasy. Les lionnes de la SF seraient-elles devenues les lionnes de la fantasy? Que non pas! Rassurez-vous, dès la fois prochaine, on parlera de science-fiction. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Paul Béorn, que nous avons rencontré aux Utopiales de Nantes. Entre parenthèses, nous avons oublié de remercier Xavier Fayet pour son accueil. Les Utopiales de Nantes, rendez-vous incontournable où on rencontre nombre d'auteurs, d'illustrateurs et de tous ces gens qui rendent notre vie plus agréable. Je vous laisse donc écouter dans un premier temps l'interview de Paul Béorn que nous avons faite aux Utopiales.
Alors la SF, j'ai pas le même bagage qu'en fantasy, j'aurais du mal à en écrire parce que j'en ai eu beaucoup moins lu. Mais c'est le genre d'univers dans lequel j'aimerais bien écrire plus tard. J'ai déjà écrit une nouvelle pour La Volte, et une fois qu'on a pris goût, c'est difficile d'y renoncer. Et puis il y a une question éditoriale aussi, la SF, c'est plus difficile de trouver un public, de trouver un éditeur intéressé. Donc pour l'instant, je vais quand même écrire de la fantasy.
T'écris de la fantaisie parce que t'en as beaucoup lu et que t'as peut-être trouvé des lacunes, des choses qui manquent et que t'as envie de raconter?
Alors quand j'ai commencé à écrire La Pucelle, hein, moi je connaissais pas du tout la fantaisie, enfin très peu. Et j'écrivais de la littérature blanche. Et donc pour moi c'était une manière de changer d'air, hein, de faire autre chose. Et je me suis aperçu quand même au bout de quelques années que ça aurait été bien que j'en lise un peu avant. Donc pour la SF je ferais peut-être pas pareil.
Je sais pas, parce que moi justement j'ai trouvé que t'apportais un courant d'air frais dans la fantaisie.
Moi je sais pas du tout ce que ça apporte, hein. En tant qu'auteur, je sais ce que j'ai écrit, mais j'ai aucune interprétation là-dessus. C'est très difficile pour un auteur de savoir ce qu'il a écrit en fait.
Et quand tu te relis en plus, tu te trouves fiant, non?
J'évite le plus possible de me relire une fois que c'est imprimé. Mais par contre, au moment où on écrit, il faut se relire évidemment pour corriger. Moi je l'ai relu très souvent pour le corriger. Mais ça fait partie du travail d'écrivain. Mais il y a des jours où je trouve ça bien et des jours où je sombre dans des abîmes de dépression en me disant oh non, c'est vraiment trop nul. Ça dépend un peu de l'humeur en fait.
tu parlais d'un manque de culture fantasy, mais ton pseudo quand même dérive d'un certain...
Oui, c'est une tromperie ça, parce que je connais très bien Tolkien, j'ai lu très jeune. Ma mère me lisait quand j'étais petit avec mes frères et sœurs, j'avais même pas 6 ans. Et ensuite j'ai lu Le Seigneur des Anneaux, j'avais 11 ans, c'est une lecture de jeunesse pour moi. Donc c'est un auteur que j'ai tout de suite adoré, mais pour autant je ne me suis pas mis à lire de la fantasy.
C'est pas plus mal, t'as évité les reçus, c'est inamontable.
Peut-être que j'aurais trouvé ça bien à 12 ans, mais maintenant c'est vrai que ça passe moins bien.
Pourquoi avoir choisi un personnage tel que Jehan, qui est un personnage humble ?
Alors, d'un point de vue technique, quand je pense à un personnage et que tout de suite je sens des fourmillements dans l'estomac, je me dis c'est le bon personnage, il faut que je choisisse celui-là. Et quand je pense à un roi, un prince, un grand magicien, j'ai rien du tout dans l'estomac, j'ai pas de fourmillement du tout, ça m'intéresse pas. Et donc je me tourne spontanément vers ce qui m'intéresse. Alors pourquoi est-ce que ça m'intéresse? Ça c'est une autre question. Je peux essayer de trouver des réponses, je suis même pas sûr que ce soit les bonnes. Je pense qu'effectivement un personnage humble, un personnage qui n'est pas de pouvoir extraordinaire ou de capacité extraordinaire, c'est un personnage pour lequel on peut ressentir facilement de l'empathie. On peut facilement comprendre ses réactions et il est assez facile aussi de ne pas tomber dans la surenchère en se disant alors s'il est très très fort, est-ce qu'il peut penser comme nous? Est-ce qu'il peut vivre comme nous? Quelles sont ses préoccupations? S'il est vraiment tout puissant, c'est quelqu'un qui aura une psychologie complètement différente de la nôtre. Il n'aura pas les mêmes besoins, les mêmes désirs. Alors que quelqu'un qui nous ressemble, finalement, c'est facile de se mettre à sa place. Même si c'est dans un monde de fantasy, je pense que les gens humbles sont toujours un peu les mêmes.
Et pourquoi avoir pensé à Jeanne d'Arc? Parce qu'il y a quand même des similitudes, on y pense forcément en lisant.
Alors, en écrivant La Pucelle, j'avais l'intention, non pas du tout de faire un roman historique, c'était pas du tout l'objet, c'était un pur roman de fantasy, mais un roman qui fasse appel à un imaginaire francophone, c'est-à-dire des noms de lieux ou de personnages qui fassent penser à la France du Moyen-Âge, et non pas quelque chose de viking ou de un peu à la Tolkien, de nordique. C'était, on a un Moyen-Âge très vivant, avec très vivant, on a beaucoup de châteaux, on a beaucoup de cathédrales, on a énormément de lieux qui nous rappellent le Moyen-Âge. Et quand je vois une cathédrale, moi je pense pas à un nom viking, je pense à un nom français de l'époque. Et Jeanne d'Arc, c'est un personnage fascinant de cette époque. Déjà, c'est à peu près la seule femme célèbre du Moyen-Âge qui ne soit pas une grande noble, une reine ou même une duchesse. C'est quelqu'un qui est issu du peuple. Hein. Et il y en a extrêmement peu dans le Moyen-Âge, des personnages qui ne sont pas issus de la noblesse. C'est un monde très hiérarchisé, un monde très dur. Et un personnage roturier n'a aucune chance de devenir célèbre. Et Jeanne d'Arc a réussi. C'est ce qui était intéressant comme personnage.
T'as quand même un noble, si on veut.
Oui, donc... oui. Mais justement, le fait qu'il soit noble, ça permet de se définir par rapport à Jeanne, qui ne l'est pas, elle. Donc, ça fait ressortir le fait qu'elle ne le soit pas, elle soit personne.
J'ai bien aimé justement ce dialogue-là, au début du deuxième tome, où chacun confronte son point de vue. Toi, tu étais là-haut dans ton château, et moi, j'étais en bas dans la boue, et c'est vrai que c'est intéressant.
Absolument, avoir deux personnages qui auraient été semblables, qui seraient du même milieu, qui se ressembleraient, ça n'aurait pas été intéressant. Il n'y aurait pas eu d'échange possible entre eux, il n'y aurait pas eu de confrontation de point de vue. Abel, le noble, il a des défauts de noble, c'est-à-dire qu'il a reçu une éducation dans laquelle on lui a expliqué que tout ce qui était en dessous du marquis, ça n'existait pas. Tout ce qui était d'une province différente de la sienne, ça n'avait pas d'intérêt. Et au contact de Jehan, il va apprendre que c'est pas vrai, en fait, que tout le monde peut être intéressant et que Jehan a des qualités extraordinaires. En même temps, Jehan avait aussi apprendre beaucoup de ce personnage, qui a réfléchi, qui a reçu l'éducation, qui a reçu aussi une éducation militaire, et qui, malgré tous ses défauts, quelqu'un d'intelligent, qui est capable de changer. Heureusement qu'il est là, voilà.
Ouais.
On n'est pas forcément meilleur parce qu'on est issu du peuple, ou pas bon parce qu'on est issu de la noblesse, simplement. Il faut que chacun fasse un effort.
Il nous manque un petit bout, ou un gros bout.
Exactement.
On parle de co-cyclique un peu? Tu veux bien?
Très bonne idée.
Ouais. Oui, alors pour les auditeurs qui nous auditent, on avait introduit co-cyclique pour l'émission des Imaginales 2010. On avait un petit peu parlé. J'aimerais que tu m'en dises un peu plus, parce qu'il y a un grimoire qui vient de paraître.
Alors, le Grimoire d'abord ou Cosiclix en général?
Cosiclix, vas-y.
Cosiclix, donc ça fait 4 ans que Cosiclix existe, donc c'est assez récent, mais c'est pas non plus hier. C'est au départ une idée qui vient d'une auteure Sivène, auteur amateur, qui avait un roman et qui cherchait des gens pour le relire et pour lui donner un avis extérieur. Et elle s'est dit, pourquoi est-ce qu'on créerait pas un endroit sur Internet où les gens s'échangeraient des lectures comme ça? Les gens, il n'y a pas n'importe qui, des auteurs amateurs, sérieux, qui seront pas trop méchants parce que c'est dur de montrer son roman, et qui seront pas non plus trop gentils parce que ça sert à rien de montrer un roman si c'est pour nous dire que tout va bien. Et donc elle a présenté ce forum, et il y a eu plusieurs formes différentes, mais en gros c'est resté le même principe. On peut poster une nouvelle ou un extrait de roman, et les gens de Cosiclix vont vous faire une lecture très détaillée sur le fond en disant « moi je préférais que ce soit comme ça, moi je trouve que tel endroit il y a une répétition, tu devrais la supprimer ». Et ensuite, l'auteur, il fait absolument comme il veut, il est entièrement libre de décider. Mais souvent, l'avis des autres nous donne des idées, nous permet de nous améliorer, donc c'est très enrichissant.
Ça a été important pour toi ?
Alors, directement, la pucelle n'est pas passée sur Cosiclix, mais j'ai passé quand même 2 ans, moi, sur Cosiclix, et j'ai présenté une nouvelle. J'ai aussi beaucoup lu les autres auteurs, et puis il y a un état d'esprit qui fait qu'on apprend beaucoup au contact des autres de toute façon, même en les corrigeant eux. En lisant les autres romans, en voyant les défauts des autres, ça permet de s'apercevoir qu'il peut y en avoir chez nous aussi. Et ça, oui, ça m'a aidé.
Et donc, le fameux grimoire ?
Alors, le fameux grimoire, c'est une idée qu'on a eue avec Silène, une amie de Cosiclix. C'était l'année dernière. À ce moment-là, je n'étais pas encore publié. Elle était déjà publiée. Moi, je cherchais un éditeur. Et on s'est fait la réflexion qu'il n'existait aucun guide des éditeurs de l'imaginaire. Il en existe un pour les éditeurs en général, hein, qui est édité par Audace, en littérature générale. Mais en littérature de l'imaginaire, il n'y a rien du tout. Alors évidemment, on peut toujours se débrouiller tout seul, on va sur Internet, on clique des mots-clés, on se renseigne. Mais on peut quand même passer à côté d'éditeurs. On peut envoyer à des éditeurs qui n'ont pas du tout envie de voir votre manuscrit parce que vous trompez l'éditorial, c'est pas la bonne personne. Et avec ce guide, on pensait faire quelque chose d'assez complet, peut-être pas exhaustif parce qu'on ne peut jamais être parfait, mais... essayer de faire dire aux éditeurs ce qu'ils cherchaient et de montrer aux auteurs qu'il y avait beaucoup d'éditeurs qui pouvaient être susceptibles de les intéresser.
Et donc, tu as envoyé Camnemos, tu t'es pas planté ? Comment ça s'est passé ?
Alors, quand j'avais écrit La Pucelle, pour moi, donc c'était de la fantaisie et j'écrivais pas de fantaisie à l'époque. Donc, pour moi, c'était pas sérieux comme roman. Je faisais ça pour m'amuser et j'avais pas... Bon, je vais pas dire que j'avais pas l'intention de le publier parce qu'on a toujours cette petite idée en tête derrière le crâne, mais c'était, j'y pensais pas vraiment. En plus, je me disais qu'en fantasy, il n'y avait pas vraiment d'éditeurs qui en publiaient en France ou très peu, et c'était très dur et que c'était peut-être pas la peine d'essayer. Et puis, au bout de plusieurs années, je me suis dit, bon, finalement, je l'ai écrit ce roman, je vais quand même essayer. Et à l'époque, donc, je connaissais pas beaucoup les éditeurs de l'imaginaire, mais j'avais entendu parler de Mnemos, je savais qu'ils avaient édité des Français ou des francophones, donc j'ai essayé Mnemos. Sans chercher d'autres éditeurs. Maintenant, je saurais envoyer à d'autres éditeurs, mais à l'époque, je ne savais pas.
Ouais.
Alors, j'ai aussi, au bout de 6 mois, comme je n'avais pas de réponse de Mnemos, j'avais essayé un autre petit éditeur qui s'appelait Voyelle, qui a refusé, heureusement, parce que Mnemos, je suis très content de travailler avec eux, finalement.
Oui, parce que l'acceptation du manuscrit, ce n'est pas tout. Il y a énormément de travail derrière.
Voilà, on a l'impression, quand on est auteur amateur, que le but, c'est la signature du contrat ou le coup de téléphone qui va vous dire « ça y est, je vous prends ». Et bon, c'est vrai, mais c'est pas un but en fait, c'est un commencement. Ensuite, il y a encore tout à faire. Non seulement pour le roman, parce que un bon éditeur, pour moi, c'est pas un éditeur qui prend un manuscrit et qui en fait un livre. C'est un éditeur qui jette un regard critique dessus, qui est capable de vous dire s'il y a des choses à changer. Alors évidemment, il faut pas que ce soit des choses imposées, faut qu'il arrive à vous convaincre que ce sera mieux d'une autre manière. Mais en l'occurrence, moi j'avais Hélène Ramdani comme directrice d'ouvrage, qui est quelqu'un qui m'a toujours laissé le choix, qui avait énormément d'idées sur le style, sur l'histoire. Il y en a certaines que j'ai gardées, d'autres non. Ça s'est très très bien passé, c'était un très bon moment finalement. Des petites idées, hein, des petites choses, une telle phrase, est-ce que tu pourrais changer, je pense que ça a mieux tourné comme ça. À peu près une remarque par page, elle m'a envoyé un grand document là-dessus. Et on a eu de longues heures sur Skype à négocier. Ça s'est très bien passé, c'est un bon souvenir.
Et donc, entre le moment où tu as envoyé ton manuscrit et le moment où le bouquin est sorti, ça a mis combien de temps ?
Ah, si je compte, 2 ans.
Ah, quand même.
Ah, quand même. Mais le plus long, ça a été le oui. Ça a pris presque 18 mois.
Et tu sais pourquoi, non? Ça prend autant de temps?
Alors, je sais que de toute façon, c'est long, parce que c'est une petite maison, il n'y a pas beaucoup de personnel, ils n'ont pas toujours le temps de lire les manuscrits en continu, donc parfois ils attendent 6 mois d'avoir un gros stock pour lire les manuscrits. Et puis en l'occurrence, celui-ci, ils n'étaient pas sûrs au début. Donc ils l'avaient mis dans un coin et ils avaient un peu attendu. Et puis finalement, quand Hélène Ramdani est arrivée, elle a pris ce manuscrit qui n'était pas refusé, qui n'était pas encore accepté, et elle s'est dit, bon, celui-là, moi, ça m'intéresse.
Oui, et il est passé en coup de cœur.
Il est passé en coup de cœur, exactement. Alors, j'ai jamais été publié en roman. J'ai jamais publié de roman.
C'est la première fois.
C'est la première fois, c'est mon premier roman. Par contre, j'avais publié des textes courts, des nouvelles.
Oui.
En concours de nouvelles de littérature blanche. Parce que... il y a énormément de concours, soit de médiathèques, soit de petites maisons d'édition, soit de revues. Et on peut toujours tenter sa chance. On sait qu'on est lu, c'est pas comme dans les grandes maisons d'édition où on sait jamais trop ce que devient notre manuscrit parmi les 10 000 qui reçoivent. Pour un concours de nouvelles d'une petite revue, tout est lu, tout est analysé et tout le monde a sa chance, parfaitement à égalité.
Mais t'es issu du littéraire ou t'as un métier qui n'a rien à voir avec l'écriture?
Je peux répondre oui et non.
Oui, je peux répondre oui et non.
J'ai fait une hypocagne, de toute façon, la littérature, ça m'a toujours intéressé, et les matières littéraires aussi, même si j'ai fait aussi une terminale S avec plein de maths, parce qu'il fallait en faire. Mais j'ai toujours voulu être auteur, ça, c'était... Et puis, comme je vous l'ai dit, ma mère me lisait Bibliobi petit, et mes parents adorent lire. Donc, je suis d'une famille de littéraires. Par ailleurs, il n'y a pas d'auteur dans la famille, et je ne fais pas du tout un métier en rapport avec la littérature. Finalement, c'est pas mal, parce que comme ça, ça ne fait autre chose.
C'est la respiration.
Mais c'est voilà, et puis c'est un métier où je rencontre beaucoup de gens et qui est très divers. Donc ça me permet de nourrir l'inspiration aussi.
Ton roman se lit tout seul, parce que c'est un véritable plaisir. Et les mots que tu as inventés sont parfaitement compréhensibles. Ils se sont venus tout seuls, tous ces mots?
Oui, alors on ne sait jamais d'où vient l'inspiration, sûrement d'autres auteurs. Puisque le cerveau est un endroit où tout se mélange et il en sort parfois des choses. On a l'impression que c'est nous-mêmes qui les inventons, puis après, si on y réfléchit bien, on n'invente rien. Mais oui, justement, la fantaisie, comme moi j'écrivais la littérature générale, c'était l'occasion d'utiliser un autre langage où je pouvais vraiment faire n'importe quoi, que ce soit pas spécialement du vieux français académique, parce que c'est pas du vieux français, il n'y a pas de mot de vieux français en fait.
Non, mais ça y ressemble.
Mais ça y ressemble, parce que... ça me permettait pour moi d'imprégner le lecteur de ce monde imaginaire. Puisque les gens n'y parlent pas tout à fait comme chez nous.
Oui.
Donc on n'est pas chez nous. Et puisqu'on était au Moyen-Âge, je ne pouvais pas utiliser des mots qu'on en utilise tous les jours. J'aurais eu l'impression de faire un anachronisme. Même si le mot n'a pas de sens en fantaisie. Mais en tout cas, d'introduire trop de notre univers dans celui-ci.
On te fait le reproche que ta méchante n'est pas assez développée. Est-ce que c'est intentionnel de ta part pour mettre l'accent sur Jeanne? Moi, je l'ai ressenti comme ça, en tout cas. Ou est-ce que c'est parce que tu n'arrivais pas à la porter et que tu n'es pas...
Alors, ce n'est pas un roman qui est écrit à la première personne, mais le point de vue est toujours centré sur Jeanne. On ne la quitte jamais du regard, voilà. Jamais des pensées, et on ne connaît pas les pensées des autres protagonistes. C'est toujours ses pensées à elle qui imagine ce qu'elle... Donc, ayant adopté ce point de vue, et Jeanne rencontrant finalement cette méchante à assez peu de reprises, hein, 3 ou 4 reprises, et à chaque fois des moments très courts, il n'était pas facile de faire parler de cette méchante. Et puis, il faut être honnête, ce n'était pas le personnage qui m'intéressait le plus. Pour moi, la méchante, le véritable méchant de l'histoire, ce n'est pas ce personnage-là, c'est l'ensemble de tous ces gens qui sont assez faibles pour se laisser embobiner par ses mensonges. Et donc Jeanne doit lutter non pas contre une méchante, mais en fait contre des centaines de gens qui sont pas vraiment méchants, mais qui deviennent facilement méchants parce qu'ils se font manipuler.
Qui tous ensemble. Un très gros méchant.
Exactement. Et ces méchants-là, je crois j'espère en tout cas, c'était un de mes buts, qu'ils soient bien menés, qu'ils soient bien développés.
Les textes sacrés disent que le grand Khan a créé le monde pour 10 000 ans et qu'après cela, la grande ruine s'abattra sur les hommes pour les faire lentement disparaître. La terre, la mer et le ciel seront alors confondus et toute vie sera détruite. Jeanne porte l'uniforme rouge du bailli. Non qu'on soit en une époque éclairée pour que des femmes figurent dans ce qui sert de police, mais au contraire, parce que la grande ruine que je vous ai présentée et qui sévit dans le pays est cause d'un manque d'effectifs. Jeanne est une héroïne attachante car elle est tout à fait commune et l'assume entièrement. Son destin sera déterminé par le fait qu'elle trouvera son baba, un enfanson qu'elle ramasse dans le tas de trésors à l'entrée de Diable Vert. Et elle sauvera le monde, bien sûr, puisqu'on est dans un univers de fantaisie. Je l'avoue, je ne serais jamais allée spontanément vers cet ouvrage et ce sont des circonstances hasardeuses qui m'y ont conduite. Mais j'en suis heureuse. J'ai passé un week-end fort agréable à lire La Pucelle de Diable Vert. Mais, ce n'est pas le cas de toutes les lionnes. Et non, Alice n'est pas là aujourd'hui pour l'enregistrement, mais elle m'a donné son avis.
Moi, je trouve qu'il n'a pas assez développé les personnages. Là, il aurait pu faire 2 tomes de, je sais pas, 300-400 pages. S'il avait vraiment étoffé les personnages et les rapports qu'elle entretient avec eux, là, ça deviendrait une bombe pour moi. Voilà.
Que reproche donc Alice à la pucelle? Un manque de développement des personnages qui entrave l'attachement qu'on peut ressentir à leur rencontre et l'implication qu'on a à la lecture du récit. Par exemple, elle trouve le baba un peu inconsistant et trouve qu'on n'est pas vraiment ému quand Jeanne le perd. De même, elle a été surprise devant le palmarès entre guillemets de Abel, qu'elle ne s'attendait pas à voir aussi valeureux. Et enfin, elle a trouvé dommage que les rapports de Jeanne et de la Perle ne soient pas plus approfondis. En fouinant à gauche à droite, on trouve également comme reproche à cet ouvrage, une méchante peu développée, une intrigue qu'on peut trouver un peu linéaire, mais Paul Bayorn a répondu à ces 2 points dans l'interview en précisant que son livre se plaçait sous le point de vue de Jeanne. Et il y a nombre de choses qui se résolvent comme par magie, ce qui rend les dangers auxquels est soumis Jeanne plutôt relatifs. Mais cela, si vous lisez ce livre, vous apparaîtra clairement. Donc, on est encore dans une grande cohérence. Je ne suis pas d'accord avec Alice. Moi, je me suis régalée. J'ai trouvé que l'héroïne, avec son bon sens paysan, était vraiment très attachante, avec sa manière d'accepter ce qu'elle est, telle qu'elle est, de pas rêver à devenir une femme super belle, devant laquelle tous les hommes se mettraient à genoux, de pas rêver de richesse, de pas rêver de réaliser toutes ses espérances, comme l'indique le panneau de l'entrée de Diable Vert. Et l'ambivalence qu'elle a, parce qu'elle est forte par ses compétences, son sens du devoir, et à la fois fragile par son manque d'assurance, et un passé qu'on découvre petit à petit par des flashbacks, un passé qui est vraiment pas facile et qui est douloureux, j'ai trouvé ça très très réussi. D'autre part, j'ai trouvé que le tandem de Jeanne et de la Perle fonctionne plutôt bien. Ça apporte quand même une note d'humour dans un récit qui est d'une tonalité sombre, hein, puisqu'on est dans un pays, je vous le rappelle, en proie à la grande ruine, ce qui empêche les naissances. Il y a des maladies mortelles et étranges qui sévissent. Il y a une guerre civile. Enfin bon, on rigole pas, quoi, dans le bouquin de Paul Bayorn. Heureusement qu'il y a la Perle avec ses réflexions pour alléger un petit peu tout ça et ces notes de dialogue justement pour aérer tout ça et pour permettre également à Jeanne d'avancer puisque la Perle, comme je l'ai dit à Paul, heureusement qu'elle est là. Heureusement qu'elle est là et elle la ramène par moments justement à son bon sens. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est justement le fait que Jeanne soit une femme des basse-terres, une femme du peuple. On n'est pas dans une fantaisie avec des héros survitaminés qui commettent exploit sur exploit. On est au contraire dans un récit où une femme se révèle à elle-même, où elle se découvre femme, elle se découvre mère, elle se découvre combattante, elle se découvre chef. Tout ça en combattant dans son coin, en vivant son destin avec courage, loin des grands événements. elle passe son temps dans le roman à s'entendre dire mais où donc étiez-vous? Cependant, ce sont ses actions qui au final pèseront sur les grands événements. Et ces actions en fait consistent à protéger son baba. J'ai été frappée par le talent de conteur de Paul Beorn. Dès le départ du roman, on est happé par l'intrigue et le mystère. Certains ont dit que le vocabulaire employé était un petit peu ardu au début. Moi, j'ai plongé directement, je me suis pas posé de questions et j'ai eu aucune difficulté. Le rythme est alerte et on se rend de questionnement en questionnement et de réponse en réponse, sans temps mort. On a une paire parlante, on a un enfant abandonné, on a des transformations étonnantes. Tout trouve une explication cohérente. En résumé, vous l'avez compris, Alice trouve en fait que ce roman n'est pas assez abouti, tout simplement, tandis que moi, je trouve qu'il est tout à fait agréable, j'ai passé un excellent moment, et que c'est un courant d'air frais et d'originalité sur la fantaisie actuelle, servi par une très jolie plume. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous dans quelques semaines, oh, 2 ou 3 maximum, pour en parler un petit peu de science-fiction. Parce que, on a assez fait de fantasy comme ça, après tout, hein, même si elle est bien.
J'aime bien les hommes pourris. Les hommes pourris. Ils puent, ils sont tout pourris.